Vous écoutez RTL.
Qu'importe la morale en fait d'escroquerie. Oui, trêve de morale et de plaisanterie.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Comme on respire, il y a bien de quoi. Pour un prince sans rire, perdre un peu son sang-froid.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ils ont choisi le côté obscur de la force et Serge Gainsbourg les a chantés. Qui sont ces imposteurs, ces génies de l'usurpation d'identité, ces escrocs de la finance, ces mythomanes? Bonsoir Pierre Lunel.
Bonsoir à vous.
Vous allez bien?
Bonsoir. Très bien.
Vous aviez la tête en l'air, vous étiez déjà parti dans vos histoires, vous êtes
Non, je suis souvent comme ça, en train de rêver.
Est-ce que vous rêviez à ces personnages hors du commun et hors du droit chemin dont vous venez nous raconter? Tiens, on va commencer par l'une des plus grandes usurpatrices d'identité. Elle se nomme Annie Tchaïkovski. Enfin, c'est l'une de ses identités, j'imagine. Qui est-elle?
Alors, cette Anna Tchaïkovski, c'est un drôle d'oiseau. C'est une femme qu'on recueille à moitié noyée un jour de 1920, près de Berlin, et elle ne parle pas. La police l'interroge, mais rien. On ne sait pas, elle veut rien répondre, elle est muette. Donc, bref, on ne sait pas de quoi il retourne. Et ça n'est qu'au bout de quelques temps, étant dans un asile où on l'a récupérée, cette pauvre fille, qu'elle va petit à petit dire qu'elle est la grande duchesse Anastasia, survivante du massacre des Romanov.
Donc c'est la fille du tsar, c'est ça ?
La propre fille du tsar. Enfin, il y avait 4 filles. Et elle était la 4e, la plus jeune. Elle avait 16 ans au moment du massacre de la famille impériale à Yekaterinbourg en 1918. Et elle fit que c'est elle.
Et on a retrouvé les corps après ce massacre, Pierre Lunel ?
Mais oui, c'est ça. Le problème, c'est que on a non pas retrouvé les corps parce que le massacre s'est déroulé ainsi. Vous savez, on avait mis à l'abri la famille impériale. C'est-à-dire Lénine et les siens avaient voulu les mettre un peu à part. Et puis, il se trouve qu'il y avait des armées, vous savez, contre-révolutionnaires, qui se sont approchées malencontreusement de l'endroit où on les avait mis, cette famille impériale.
Ce qui veut dire ?
Eh ben, c'est-à-dire qu'on craignait que ces armées contre-révolutionnaires n'enlèvent le tsar. Alors là, c'était quand même mal, ça partait mal pour Lénine et les siens. Donc, à partir de là, une décision a été prise au plus haut niveau d'éliminer la famille impériale. On les a massacrés dans la nuit, ça a été très rapide. Les commissaires du peuple sont arrivés. Dans cette maison, on les gardait et on les a tués à bout portant. Tous, un par un, et on a donné le coup de grâce à tout le monde.
Et donc, malgré tout, plusieurs et années après, réapparaît cette soi-disant princesse. Et on peut imaginer la déflagration que ça représente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Russes, la diaspora, des Russes blancs, ils défilent tous pour la voir.
Mais bien sûr. Enfin, on a du mal à imaginer. Enfin, sinon, nous, on a eu la famille française royale qui a été quand même assassinée durant la Révolution. Donc, on peut savoir ce qu'on peut ressentir dans ces cas-là. Mais il est certain que l'assassinat des Romanov a été une déflagration européenne colossale. Et tous les nobles, les grands ducs, les princes, qui étaient partis de la Russie, dardard pour sauver leur peau, se sont précipités dès l'instant, petit à petit, quoi. Mmh. Ils ont fait des travaux d'approche pour essayer de voir qui était cette femme.
Et alors, quelle est la première impression? Est-ce qu'on croit que c'est la fille, une des filles rescapées du tsar, ou on a des doutes quand même?
Zéro. Au début, zéro. C'est-à-dire qu'au début, vraiment, ça ne se passe...
On veut y croire.
Mais c'est-à-dire qu'on veut y croire, sauf que, je résume la chose, elle ne ressemble pas à la grande duchesse Anastasia, physiquement. Mm-hmm. Bon, c'est gênant, parce que c'était en 1918 qu'on l'avait quittée, on la retrouve en 1920, en 2 ans, surtout à partir de l'âge de 16 ans jusqu'à 18 ans, on ne peut pas se transformer miraculeusement, quand même. On peut trouver un bout du nez qui ressemble à quelque chose, les oreilles, les yeux.
Elle ne ressemble pas. Est-ce qu'elle parle russe?
elle parle pas russe. Elle ne parle qu'allemand.
D'accord.
Ça, c'est également une seconde gêne.
Un petit souci, oui.
C'est un vrai problème.
Dans le choc,
c'est un souci.
Oui.
Bon, elle a pu oublier. Non, elle dira pas ça. Elle dira qu'elle ne veut pas parler russe parce que ça lui rappelle de trop mauvais souvenirs.
Mais ce qui est passionnant, Pierre Lunel, c'est que malgré tout ça, les gens veulent y croire.
Ah ben oui, mais ça, on peut... Écoutez, mon cher Thomas, on peut pas faire le monde.
Mais il non, est mais évident c'est fascinant dans une imposture.
Mais non, mais on veut toujours croire qu'il peut survivre d'un massacre un miraculé. Bon, et cette fille, c'était la plus mignonne de la famille par-dessus le marché. Des quatre filles, c'était le bout en train, la fille qui faisait rire tout le monde. On l'aimait beaucoup, cette Anastasia. Donc, tout le monde veut y croire. Et puis, il y a plein de membres de la famille impériale qui sont réfugiés dans toute l'Europe. En Allemagne, au Danemark, en Belgique. Et ils sont tout prêts, ces gens-là. Donc, ils veulent savoir ce qui se passe.
Alors, Anastasia va quitter l'Europe pour les États-Unis. Qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Enfin, Anastasia, alias Tchaïkovski, alias Franziska Chandzowski, alias d'autres...
Non, femmes. Elle n'est pas encore Franziska Chandzowski. Elle est simplement Madame Tchaïkovski. Et alors, il se trouve qu'après avoir été visitée par plein de gens, il est certaines personnes qui, eux, l'ont reconnue. Et on dit, ben oui, c'est elle.
C'est elle
vraiment,
qui, alors
à des petits détails.
La fille du tsar ou...
La fille du tsar, d'accord. Comme la fille du tsar. À des petits détails. Parce que, par exemple, elle se souvient de détails incroyables. On se demande comment elle peut savoir ça. Par exemple, quand l'un des visiteurs vient et lui dit, vous vous rappelez quand nous jouions au billard à la salle du premier étage au palais de Tsarskoïe-Selo? Et elle lui répond, mais non, le billard était au rez-de-chaussée. Bon, pas s'inventer. Et plusieurs choses comme ça. Bon, bref, elle se retrouve aux États-Unis parce qu'il y a une cousine germaine du tsar, Xenia, qui a épousé un milliardaire américain. Alors qu'il la recueille parce qu'elle aussi veut savoir. Ça se passera mal aux États-Unis.
C'est-à-dire que concrètement, Pierre Lunel, on pourra lire la suite et le détail de cette histoire aux éditions First dans votre livre « Les plus grands escrocs de l'histoire ». Elle va mourir, elle n'aura pas été démasquée, Anna Tchaïkovski.
Eh bien, cette Anna Tchaïkovski, pendant 40 ans, a maintenu vraiment l'idée comme quoi elle était vraiment la grande duchesse Anastasia.
Et sur sa
sauf
tombe...
qu'un procès en 1960 décrète que non.
Mais sur sa tombe, elle écrit quand même « Her Imperial Highness ». D'autres histoires
d'escrocs
à découvrir dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Leur talent est de vous embobiner en mentant, en se grimant, en changeant d'identité. Ce soir, on côtoie les escrocs en tout genre avec notre invité, l'écrivain Pierre Lunel. Alors, nous sommes en 1947, s'ouvre à Amsterdam, devant des journalistes venus du monde entier, le procès d'un faussaire de génie. C'est un certain Han van Mergeren. Qui est-il ?
Ah ben écoutez, pour moi c'est le plus grand faussaire de tous les temps. Ce van Mergeren était très doué, il voulait faire de la peinture, son papa voulait pas. Ça commence pas bien. Et puis par-dessus le marché, il se fait peintre et quand il commence à vivre bien de sa plume, de son pinceau, et ben voilà que c'est les critiques à ce moment-là qui sont pas contents, qui trouvent que il peint de façon un peu académique, etc. Bon, donc il se met à haïr les critiques. Et comme beaucoup de grands peintres, d'ailleurs, se mettent à haïr les critiques. Et à un moment donné, il se dit, puisque ces gens-là sont impossibles et sont ne valent rien, moi je vais leur prouver que ce sont des imbéciles. Et il adorait la peinture flamande, les grands flamands. Mmh. Et il choisit probablement le plus difficile à imiter, parce que c'est le plus subtil de tous les peintres, c'est Vermeer. Nous ne connaissons que 28 toiles de Vermeer, c'est-à-dire que c'est un peintre peu prolifique. Mais on peut imaginer que beaucoup de toiles se sont perdues, qu'on peut encore les retrouver. Bien.
Il va créer des Vermeer.
Oui, mais justement, mon cher Thomas, c'est que non seulement il n'imite pas un tableau de Vermeer, il crée du Vermeer. Il dit, voilà, on ne connaît que 28 toiles de sujets normaux, enfin
répertoriés,
etc. Ouais. Mais on ne connaît aucune toile religieuse de Vermeer. À cette époque, 17e siècle, faire de la peinture sans faire des sujets religieux, c'est pas possible. Donc forcément, il y a partout à dénicher des sujets religieux de Vermeer.
Donc il va s'y coller, Mégueren. Mais avec quelle technique alors? Parce que j'imagine que,
ça,
par exemple, les pigments du 17e, c'est pas ceux du début du 20e.
Oh ben là non, c'est une complexité. J'ai appris par cet ouvrage qu'être faussaire, franchement, ça demande des talents inouïs. Bon, d'abord, premièrement, il faut être d'un talent prodigieux au niveau pictural. C'est pas à la portée du premier scribouilleur venu. Non. Mais deuxièmement, il faut être un technicien, chimiste et physicien absolument colossal. Parce que il y a plein d'obstacles. Vous devez peindre une toile qui présente tous les aspects d'une toile d'il y a 3 siècles. Pour ça, c'est très compliqué. Il faut que vous preniez un socle de l'époque. Vous le grattez, enfin une toile, une croûte. Vous le grattez. Ben oui, une croûte.
Pas Vermeer.
Vous le grattez et vous peignez dessus.
D'accord.
Bon, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez penser que c'est terminé. Non, pas du tout. Il y a encore d'autres problèmes comme celui des craquelures.
Vous savez, les craquelures.
Quand vous voyez un tableau au Louvre, vous voyez qu'il est tout craquelé. Mmh. Mais ça, c'est le temps. Donc, reconstituer les craquelures, c'est pas avec le pinceau.
Comment faire, ce faussaire.
Pour les craquelures, il faut faire cuire sa peinture pendant un certain temps, très précis, dans
un four. Prends des notes pour la retraite. Hein.
Alors, un four à combien?
Dans un four à 105 degrés. Je précise bien 105, pas 110, sinon vous cramez la toile.
Vous avez la composition du vernis aussi, parce qu'on prend des notes là.
Deuxième chose, mon cher Thomas, c'est pas fini. Oui. Les pigments dont on parlait, Sidonie, qui sont des pigments rarissimes, on ne les trouve plus. Donc, ce Van Mulgeren se met à marchander avec des marchands londoniens qui vont retrouver des pigments perdus depuis toujours.
C'est la cuisine, pour réussir à créer un nouveau Vermeer. Oui. Mais j'ai bien retenu qu'il veut piéger les critiques.
Oui.
Donc, est-ce que ça marche? Comment ce tableau est reçu?
Eh bien, ça marche. Le premier tableau qu'il peint, c'est, si je me souviens bien, un Christ à Emmaüs. Eh bien, il appelle le plus grand critique d'art de Vermeer de l'époque, un dénommé Brédius.
Et il dit quoi? J'ai trouvé un Vermeer dans ma case?
Et ce Brédius tombe en extase.
Comment il justifie? Évidemment,
il trouve une filière qui vient d'Italie, une vieille comtesse qui avait dans son grenier plein de toiles qu'elle voulait. Bon, elle avait hérité de tout ça. Donc, elle voulait les fourguer. Et par conséquent, ça vient de là-bas, d'une filière italienne. C'est pas évidemment lui qui les fournit. Mmh. Et à ce moment-là, ce Brédius tombe en semi-syncope, en disant, c'est la première fois que je vois un Vermeer pareil, c'est sublime.
Est-ce qu'il va essayer de vendre cette toile, le faussaire Mulgeren?
Le problème Van Mulgeren, au début, il n'était pas intéressé par l'argent. Il voulait simplement montrer aux critiques que c'était des crétins, et ensuite avouer en disant, voyez, écoutez, non, c'est moi qui l'ai fait, donc il n'y a pas d'argent avec ça. Mais après, une fois qu'il a été acheté très cher, il a été grisé. La tentation.
Et il en a fait d'autres, donc j'imagine, Pierre.
Et il en a fait beaucoup d'autres. Son malheur à lui a été que, on est en pleine guerre. Vous savez qu'il y a un monsieur très, très méchant, un bandit, celui-là, qui rafle toutes les œuvres d'art d'Europe. C'est monsieur Göring.
Bien.
Et Göring apprend qu'il y a des Vermeer qui traînent, etc. Bon, ce qui fait que son rabatteur finit par trouver des toiles de Van Mulgeren. Seulement le problème qui se passe, c'est qu'à la Libération, ce Van Mulgeren va être soupçonné de collaboration. Comme pour avoir vendu des œuvres d'art appartenant à la Hollande au maréchal nazi.
Donc il va devoir prouver qu'il est ni collabo ni faussaire.
Mais il était scandalisé qu'on l'accuse d'être collabo. Il s'en foutait éperdument.
Un faussaire qui doit prouver qu'il est faussaire pour se sortir des grisailles.
Mais son drame à Van Mulgeren, c'est qu'il n'a jamais pu prouver, même pas au procès, qu'il était un faussaire, tellement ses œuvres étaient géniales.
Usurpation d'identité, faussaire de génie, mais aussi un curé à la tête d'arnaque incroyable, c'est ce qu'on vous racontera dans un instant sur RTL avec notre invité Pierre Lunet.
Vous écoutez RTL.
RTL.
C'est le lieu de tous les fantasmes et le diable de Rennes-le-Château peut sourire. Depuis 120 ans, des générations de chasseurs de trésors viennent ici près de Carcassonne pour percer le mystère de l'abbé Saunière en vain.
La curiosité est un vilain défaut.
Lorsqu'il a fini par reconnaître sa vie cachée, Jean-Claude Roman aurait lâché cette simple phrase « Je suis un monstre ».
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On explore les vices des hommes et des femmes de l'histoire sur RTL avec notre invité, l'écrivain Pierre Lunel, dans votre livre « Les plus grands escrocs de l'histoire » paru chez First. Il y a aussi un curé pas très catholique, c'est le fameux abbé Saunière. On entendait la voix de notre confrère de TF1, Michel Izard, qui en parlait à l'instant. Qui est l'abbé Saunière ?
Ah ben ce brave abbé Saunière, c'est un abbé qu'on voit vivre en France à l'époque de Napoléon III, et il est d'une famille très traditionnaliste. Vous savez que la France se découpe en deux à l'époque. Vous aviez les gens qui défendaient la cause du roi, du retour du roi, qui ne viendra jamais, et puis les autres qui étaient les républicains. Alors l'abbé Saunière,
il habite dans quel coin de France d'ailleurs ?
Dans l'extrême sud, hein, c'est vraiment la région de Carcassonne. C'est son mandat sera à Rennes-le-Château, vous savez, cette paroisse qui a fait couler beaucoup d'encre, même à l'époque des nazis, puisque un très célèbre essai s'est allé fouiller par là-bas pour chercher le trésor de l'abbé Saunière. Bon.
On va y venir, au trésor de l'abbé Saunière. C'est quoi ce trésor ? Qu'est-ce qu'il en fait ?
D'abord, le trésor de l'abbé Saunière, il faut enlever maintenant complètement enlever le couvercle d'un mythe. Il n'y a pas la découverte d'un trésor magnifique comme celui de Racam le Rouge de Tintin.
Il a rien, donc.
C'est pas qu'il n'y a rien, mais enfin, il découvre des petites choses. C'est vrai, mais c'est pas du tout le trésor que on imagine.
Mais c'est ce qu'il voulait faire croire, juste pour bien comprendre.
Non, mais il est fasciné par la découverte, parce qu'il s'intéresse énormément à l'archéologie, à l'histoire du coin, et on parle énormément de trésors qui remonteraient aux Templiers, qui remonteraient au Moyen-Âge, etc. Et c'est un grand curieux et un grand érudit, l'abbé Saunière. Ça n'est pas un imbécile.
Ça veut dire qu'il va fouiller dans son abbaye, alors
Il fouille dans le coin et il finit par trouver derrière des pierres vénérables et sacrées, de découvrir des choses qui s'apparentent à des débuts de trésors. Mais ça l'excite tellement que avec celle qui sera sa compagne, une nommée Marie, parce que il a aussi sa bonne du curé.
S'il n'est pas très catholique,
il faut qu'il ait aussi sa bonne du curé. Donc il est amoureux d'elle, elle est amoureuse de lui. Il n'y a pas de quoi rire. Ça peut arriver, et par conséquent, ils mènent une vie vraiment ensemble d'une passion commune. Passion l'un pour l'autre et passion pour les trésors. Donc la nuit, ils vont fouiller par-dessus le marché dans les cimetières. Il y a un cimetière à Thenon et ils se disent que parfois les trésors gisent sous terre, du côté des morts.
Donc, ça c'est moche, ça veut dire qu'ils se transforment en pilleurs de tombes. Il faut dire les mots.
Pilleurs de tombes, évidemment. Parce que les choses ne se savent pas très vite là-bas, dans ces coins, apparemment. Donc, ils pillent tranquillement pendant des années. Ils ne trouvent rien du tout. Et ça n'est que peu à peu que la rumeur vient raconter, notamment aux dirigeants de l'église du coin, à l'évêque de Carcassonne, qu'il y a un certain abbé Saunière qui déterre les morts. Tout ça, ça la fout mal.
Alors il y a ça, Pierre Lunel, et puis il y a aussi une histoire de messe qu'il se fait payer.
Mais c'est là où il gagne des sous, figurez-vous. Parce que le monde traditionnaliste et le monde de droite sous la Troisième République est très nombreux. C'est pas trois pelés, un tondu. La France est pour une grande part de droite, monarchiste, bonapartiste, néo-bonapartiste, etc. Et par conséquent, ces gens-là aiment bien que leur curé soit de leur bord. Donc, de partout en France, on apprend qu'il y a un abbé Saunière qui dit bien la messe à la mode de droite, qui par-dessus le marché est passionné de trésors, ça intrigue. Et de partout, on lui demande de dire des messes. Et il en dit, commence par en dire 5, 6 par semaine, puis 15, puis. Et finalement, il arrive à des chiffres de plusieurs milliers de messes.
Parce qu'il se fait payer l'abbé Sonia, alors qu'on ne se fait pas évidemment payer les messes quand on est abbé, j'imagine, normalement.
Ah, on peut toujours donner un peu de sous pour obtenir une messe. Ça, c'est pas du tout un crime. Mais l'industrie de la baissonnière, c'est-à-dire 18 000 messes, ben, là, ça devient carrément de l'industrie.
C'est ça le trésor de la baissonnière, finalement ? C'est cet argent qu'il a amassé ?
Mais tenez-vous bien, il fait des milliards. Il gagne des fortunes parce qu'il y a non seulement ceux qui paient la messe à son prix, c'est-à-dire quelques milliers de francs, mais il y a ceux, les bienfaiteurs, qui sont les mécènes des partis de droite et par conséquent qui enrichissent la baissonnière.
Qu'est-ce qu'il fait de tout cet argent ?
Eh bien, il bâtit.
C'est bien, il faut mettre dans l'immobilier.
C'est un bâtisseur. Il ne le bouffe pas au casino. Ça n'existe pas à Rennes, le château, les casinos, de toute façon. Donc il bâtit une maison parce qu'il a le goût du beau, le goût du grand, le goût du luxe. Et il fait venir ses copains.
Alors, je vais résumer. Donc, on a un abbé qui est amoureux
de Marie, sa
bonne et son amoureuse, oui. Qui pille les tombes, qui se fait payer des messes, qui se construit un château, quasiment. La hiérarchie de l'Église catholique, on est dans les années 1900-1910, c'est ça, qu'est-ce qu'elle fait ?
Oui, enfin, elle commence avant la fin du siècle, mais la hiérarchie met du temps. Vous savez, d'abord, l'Église est lente. Elle est toujours lente à réagir. Vous avez remarqué ça ? Aujourd'hui, c'est pareil. Bon, donc on met du temps. Vous savez, on a 2000 ans d'histoire aller dans l'Église. Bon.
Donc au début, on ne dit rien, on laisse faire la baissonnière.
Oui, parce qu'il a des avocats. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment. C'est pas si simple. Et puis en plus, il est en tant que prêtre, il est un bon curé. Bon curé de ses ouailles. Il s'occupe bien d'elle. On l'aime. Que voulez-vous ? On l'aime.
Alors qu'est-ce qui va le confondre, la baissonnière ? Qu'est-ce qui va faire qu'il va se faire piquer ? Mais peut-être qu'il ne sera pas piqué finalement.
Non, il ne sera pas piqué. Mais sauf que ce qu'il bâtit, la maison de Béthanie, il l'appelle la maison de Béthanie en allusion à l'évangile, naturellement. Mais cette maison de Béthanie, il voulait en faire à l'origine une sorte de maison pour curer malades et retraités. Mais finalement, il trouve que c'est plus sympa d'inviter ses copains et ses amis et il fait la bamboula. À la maison de Béthanie. Donc, si vous voulez, c'est un curé olé olé, la baissonnière. C'est un homme assez merveilleux parce que, d'une part, il a la foi. Incontestablement, c'est pas un raté, il est pas défroqué, enfin, il est vraiment curé, quoi. Et il s'occupe bien de ses ouailles, il prie sans doute merveilleusement bien, il les assiste. Et par ailleurs, il aime les sous.
Il aime les sous,
pas du tout pour avoir des sous comme ça, comme Harpagon, Macassette, hein. C'est pas ça. Mais il aime les sous parce qu'il peut bâtir avec ça. Et la maison de Béthanie, ce sera une demeure absolument magnifique. Enfin, il aurait escroqué vraiment tout son monde. Et alors, il y a ce fameux mythe du trésor de Rennes-le-Château qui naît à partir de là et qui fera couler tellement d'encre, et notamment à l'époque des nazis.
Et sur son lit de mort, Pierre Lunel, la baissonnière, il va se confesser. Il va dire, je suis un imposteur.
Parce que vous savez, un vrai curé, il a toujours un petit côté curé d'Ars en lui. Donc, il veut demander pardon. Il veut demander pardon et par conséquent, le curé qui assiste à cette confession, qui l'assiste durant cette confession, eh bien écoutez, après la confession, il le regarde et il lui refuse l'absolution. Il lui refuse l'absolution. Alors, on ne sait pas pourquoi, parce que c'est le secret, naturellement, comme le secret médical, hein, le secret de la confession. Mais on peut imaginer qu'il avait entendu, sans doute, des choses qui poussaient cet homme d'Église à refuser, vraiment, le pardon de l'Église à la baissonnière.
Autre histoire incroyable et pourtant vraie, dans un instant sur RTL, celle du faux docteur Roman. Pendant 20 ans, il a menti sur sa vie professionnelle avant de commettre un massacre.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
escroc, menteur, manipulateur, imposteur. Non, je vous rassure, tout va bien entre Thomas Hugues et moi.
Ah, ça m'est pas destiné, j'espère bien.
Bienvenue dans un monde trouble et violent. Notre invité Pierre Lunel s'est passionné pour ses histoires à peine croyables, ses profils passionnants et aussi terrifiants, comme celui du docteur Roman. Alors, c'est une histoire qui se déroule dans les années 90 en France. Au début, il s'agit d'un terrible fait divers, un homme qui tue sa femme et ses deux enfants dans un village de l'Ain, puis ses parents dans le Jura. De retour chez lui, il met le feu à sa maison et tente de se suicider. Mais qui est Jean-Claude Roman ?
Oh, Jean-Claude Roman, à l'origine, c'est vraiment un type très bien. Bon, on sent qu'il est un peu solitaire, il parle pas beaucoup, donc il a sans doute des difficultés relationnelles très importantes. Mais enfin, il finit quand même par épouser la fille qu'il aime, aussi. Ils font tous les deux des études, l'une, elle, de pharmacie, lui, de médecine. Tout se passe très bien, il étudie très bien, sauf que... À la veille de passer l'examen de médecine de deuxième année, il met le réveil pour aller passer l'examen. Mmh. Il entend le réveil sonner et là, il ne se lève pas.
Donc il ne devient alors pas médecin, Jean-Claude Roman.
Et non seulement il ne devient pas médecin, on ne comprend pas pourquoi il n'y va pas, bon, premièrement.
Ouais.
Deuxièmement, néanmoins, il continue à étudier. Et il va passer donc en troisième année, fictivement, en quatrième année, effectivement, et ainsi de suite.
Attendez, effectivement, ça veut dire qu'il est...
Il ne passe pas l'examen.
Il est inscrit, il va suivre les cours.
Il est inscrit,
ouais.
Il suit les cours, ouais. Et il ne passe jamais l'examen.
Et qui est au courant de ça? C'est-à-dire qu'à partir du moment où il ne se lève pas pour aller passer l'examen de médecine, tout le monde pense qu'il a passé l'examen
personne.
De médecine.
C'est un bon garçon.
Le mensonge commence.
Personne. Le mensonge commence, et comme parfois tous les mensonges, les grands mensonges, ça commence d'une façon douce. C'est-à-dire que personne ne soupçonne Jean-Claude de mentir quand il dit qu'il passe ses examens de médecine. Parce que c'est vraiment un bon garçon qui travaille bien et qui en sait autant que les gens qui passent réellement leurs examens.
Oui, parce que vous nous avez dit que sa future femme, à la même époque, elle fait des études de pharmacie, donc
oui.
Il ne peut pas non plus
complètement
la berner. C'est-à-dire que s'ils ont des discussions
oui.
entre futur médecin, futur pharmacien...
Complètement. Il en sait autant à la sortie des 7 ans de médecine que les médecins.
Oui, mais Pierre Lunel, Jean-Claude Roman, il fait semblant de passer les examens. Donc quand on est étudiant, bon, voilà, on peut toujours un peu faire croire. Mais une fois qu'on dit qu'on est médecin et qu'on doit rapporter de l'argent chaque mois à la maison, on fait comment?
Alors d'abord, premièrement, il n'est pas médecin libéral. Il simplifie les choses. Mais il dit qu'il est chercheur. C'est dans le Jura, ça. Il dit qu'il est chercheur à Genève, à l'OMS, à l'Organisation Mondiale de la Santé. Autrement dit, un chercheur, ça gagne pas beaucoup de sous, c'est mensualisé, etc. Comme d'emblée, il réussit à se débrouiller pour placer un peu d'argent de ses amis auprès des banquiers suisses, ça rapporte de l'argent. Il escroque également autour de lui sa famille, tout se passe bien. Tout ça, personne ne sait. Mais surtout, l'imposture, là où elle est la plus extraordinaire, c'est que le matin, cet homme se lève, il se met en costume, il met sa cravate, il descend, il prend sa voiture et il va à l'OMS de Genève. Sauf que, en route, il s'arrête sur le bord de la route et là, pendant des heures, il regarde passer les voitures et il regarde voler les oiseaux.
Il ne fait rien.
Ou alors, il ne fait rien. Ou alors, il va, parce qu'il est très curieux et très grand lecteur, il va à la bibliothèque universitaire et il lit pendant des heures, des demi-journées, des journées.
Et ça dure des années ?
20 ans. 20 ans.
Et pendant ces deux décennies, sa femme ne va jamais l'appeler au bureau, essayer de le joindre ?
C'est là le grand mystère. Il lui dit qu'il ne peut pas être dérangé, ouais. Parce qu'il est sur des recherches très sérieuses, des recherches qui vraiment intéressent des populations entières, et que par conséquent, il est indérangeable.
Alors
voilà
même
comment
si
ça se passe.
Vous dites, Pierre Lunel, que les chercheurs ne rapportent pas beaucoup d'argent à la maison, en tout cas dans son cas. J'imagine quand même qu'il faut qu'il ramène un peu d'argent. Cet argent, il le gagne en escroquant
oui.
sa famille, c'est ça ?
Alors, il le gagne parce qu'il dit qu'il ne gagne pas suffisamment d'argent. Donc, il s'intéresse à la retraite de son beau-père, qu'il escroque. Ensuite...
Mais il s'improvise conseiller financier aussi, Jean-Claude Roman.
Il est conseiller en produits financiers parce que comme il est en Suisse, on lui fait confiance. La Suisse est toute petite, donc Donc, quand il dit qu'il connaît beaucoup de gens dans le milieu de la finance, personne n'ose ne pas le croire. Donc, tout le monde dit oui, d'accord, aide-nous à avoir gagné de l'argent. Bref.
Mais il en fait gagner sa famille.
Il ramasse des sous. Non, il en fait. Justement, jamais. Mais l'argent ne rentre pas, puisque, en fait, cet argent, il est pour lui. Il ne le place jamais. Quand ensuite il tombe amoureux d'une femme.
Donc il est toujours marié, il prend une maîtresse.
Il prend une maîtresse, tombe amoureux de cette maîtresse. Une maîtresse, elle divorce d'un dentiste fortuné. Et comme ils étaient mariés en communauté de biens, elle bénéficie de la moitié du produit de la vente du cabinet dentaire. Ça fait une somme coquette. Et par conséquent, il lui demande de lui prêter pour placer cet argent.
Donc il
ne placera jamais. Il escroque sa maîtresse. C'est des produits considérables, quand même.
Mais vous dites une somme coquette. Combien d'argent il va lui extorquer à sa maîtresse?
Combien coûte un cabinet dentaire? Enfin,
plusieurs centaines de milliers de francs.
Plusieurs centaines de l'époque. Milliers de francs de l'époque. Ouais. Autrement dit, c'est beaucoup de sous. Mm-hmm. Et pendant 20 ans, ça dure ainsi.
Alors, pendant 20 ans, Pierre Lunel, vous nous racontez que Jean-Claude Roman trompe son monde, il fait croire qu'il est médecin à l'OMS.
Oui.
Pour pouvoir ramener de l'argent, il s'improvise aussi conseiller financier, donc il vide les comptes de tous ses proches.
Oui.
Et un jour, qu'est-ce qu'il se passe? Il est acculé.
C'est-à-dire qu'un jour, il arrive.
Il a des remords.
Ce qui doit arriver. Non, ça commence pas par des remords. Ça commence simplement que sa femme, elle nourrit quand même petit à petit une certaine suspicion, parce que elle se dit c'est quand même curieux que il n'y ait pas un arbre de Noël de l'OMS où je sois invité, parce que nous avons deux petits enfants. Les chercheurs de l'OMS, ils ont aussi des petits enfants, et ces gens là, ils font un arbre de Noël à Noël.
Ah, le diable est dans les détails quand même, hein. L'arbre de Noël de l'OMS.
Ça, c'est très féminin, parce qu'une femme, ça pense à ses enfants. Et voilà, ça, c'est normal. Et donc, elle se dit, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi est-ce que je ne suis jamais invité? Donc, ça l'intrigue énormément. Et donc, dès l'instant où Jean-Claude Roman va sentir qu'un doute s'insinue dans l'esprit de sa femme, il n'a plus qu'une idée, c'est vraiment la faire taire. Parce que il ne supporte pas, c'est pas tellement qu'il a peur qu'elle le dénonce auprès de la police, quoi que ce soit, c'est qu'il ne se supporte pas avouer au bout de 20 ans l'imposture qu'il a commise.
Donc l'imposteur se transforme en meurtrier.
Donc l'imposteur n'a plus qu'une solution, c'est empêcher que l'imposture ne soit découverte. Et là, avec un sang-froid inimaginable, une nuit, il assomme sa femme avec un rouleau à pâtisserie, décidément vraiment, on est dans un rouleau de cuisine, et il la tue. Et comme il a deux petits-enfants, il se dit d'une façon, enfin c'est la folie là qui le prend, que ses deux enfants sont aussi des témoins de son imposture folle. Mmh. Donc il va tuer également ses deux enfants. Et il va essayer, il va aller tuer, après ça, il va tuer ses propres parents à 80 kilomètres de là. Et puis, il se dit également que puisqu'il a une maîtresse, cette maîtresse également, elle est le témoin de son imposture. Donc, il va la chercher à Versailles où elle est, puis il lui invente une histoire rocambolesque, comme quoi il l'invite pour dans la maison de campagne de Bernard Kouchner, qui les a invités, lui, le grand médecin de l'OMS. Ils partent ensemble. En route, il essaie de l'étrangler. Et à ce moment-là, elle a un mot qui la sauve, elle lui dit « Je t'en prie, pense à mes deux petites filles ». Et à ce moment-là, il arrête de lui serrer la gorge et de tenter de l'étrangler. Et il rentre chez lui, il la dépose, il rentre chez lui pendant le Jura. Et là, il essaie de mettre fin à ses jours, mais il se rate.
Il sera donc jugé, Jean-Claude Roman ?
Il est jugé, il est condamné à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 20 ans, si je ne m'abuse. Et par conséquent, il n'est pas encore sorti de prison.
Ça, c'est une des nombreuses histoires que vous racontez, passionnantes histoires et terrifiantes histoires, dans les plus grands escrocs de l'histoire. C'est aux éditions First Document. Merci à vous, Pierre Lunel. Et à bientôt sur l'antenne d'RTL, puisque
merci.
Vous êtes l'un de nos sociétaires maintenant.
Merci, Pierre Lunel.
On aurait eu le carte.
Bonne soirée.
Vous écoutez RTL.